Et si on semait un peu, beaucoup de poésie dans nos vies? Moi, je dis oui à la folie. Il y a parfois des endroits, des lieux où on n'ose pas rentrer, peut-être par peur de ne pas être à la hauteur, que l'on se moque de nous ou parce que tout simplement, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors on passe devant ces lieux, on hésite à pousser la porte, puis on continue notre chemin. Et après ? Mais après, on regrette. On se dit « mince, la prochaine fois, j'y vais ». Et c'est ce qui s'est passé. Il y a tout juste un an, j'ai enfin franchi cette porte pour aller suivre un atelier slam suivi d'une scène ouverte. Je me suis longtemps dit que ce n'était pas pour moi. Pourtant, chaque fois que je passais devant cette scène ou alors dès que j'en entendais parler, une petite voix à l'intérieur de moi me murmurait « mais si, vas-y, qu'est-ce que t'attends ?» Ça aurait pu s'en arrêter là, mais quelques mois plus tard, mon amie Adeline me parle d'un stage d'une semaine organisé par le collectif Slameke à Bruxelles. Alors encore une fois, j'hésite. Je ne sais pas vraiment si je vais être disponible à cette période, si je vais m'inscrire. Tout ça, ce sont des fausses excuses. C'est plutôt que j'ai peur. Peur que cette expérience vienne réveiller en moi des passions mises de côté qui me sont pourtant si chères à mon cœur. Alors je décide enfin de m'inscrire et puis bien sûr il est trop tard, plus de place. Et là, je sens au fond de moi mon ventre se tordre. Vous savez la sensation que vous avez quand vous avez le sentiment d'avoir loupé une opportunité. Je suis déçue. Puis la veille du stage, je reçois un message de Najad. Isaline, si tu es toujours partante, une place vient de se libérer. Je prends cette nouvelle comme un signe du destin, alors oui, je m'inscris. Najad, c'est le maître de cérémonie de ce stage de slam. Il met à l'aise, nous explique différentes techniques d'écriture. Najad, il a toujours le sourire aux lèvres et ça fait du bien. Il apaise, met en confiance. Il a plusieurs acolytes, dont Laura, ou plutôt Laura dans l'air, poétesse bruxelloise et très solaire. Parmi les participants, des habitués, des championnes de slam, des débutants. Un joyeux mélange d'univers qui impressionne et en même temps il s'y dégage une bienveillance face à nos mots, nos textes et là encore ça fait du bien dans ces temps qui courent où parfois les gens ne s'écoutent plus. On se plonge à corps perdu dans le flot des mots qui arrivent instinctivement, parfois même par surprise. J'y prends plaisir et j'aime écrire. Trouver les mots justes pour raconter mon monde dans notre monde. Pousser la porte de ce stage de slam n'était pas seulement une simple envie de me divertir, j'ai replongé dans mes souvenirs. Ceux de l'enfance qui parfois s'égare dans nos mémoires et y reste coincé des années ne demandant qu'à s'envoler. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis revue petite à écrire des poèmes et même à faire des concours que j'ai parfois gagnés. Ce souvenir m'est réapparu comme une évidence. Je me suis revue parfois traîner des pieds, je préférais aller jouer, mais dès que je me mettais devant ma feuille de papier, mon imaginaire se mettait en marche et c'est ce que j'aimais. Les sensations de moi, petite, ont fait leur grand retour sans aucun détour. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de tendre le micro à deux artisans des mots, Najad et Laura dans l'air, slameureuse, poète et membre du collectif Slameke. Oui, deux magiciens de la langue française qui manient les mots comme personne, transforment leurs paroles en bulles d'air qui nous libèrent, qui nous bouleversent, qui nous soulèvent, qui nous bousculent ou qui nous réparent. On rit. Parfois on pleure, parfois on retient notre propre souffle, parfois on s'émeut. Toute une palette d'émotions dans leurs jolies déclamations. Qu'elles soient rythmées, douces, ponctuées par des silences, leur souffle comme un signe de délivrance. Et je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cet épisode. Et oui, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Laura va nous lire, ou plutôt nous déclamer, l'un de ses plus beaux poèmes. Et Najad et moi-même, nous allons faire une bataille de compliments. Nous avons enregistré l'épisode chez moi. Laura et Najad sont venus sous la pluie bruxelloise. On a discuté, je leur ai préparé un bon thé balinais et un café. Puis on s'est installé. Réglage du son, micro on, l'interview peut commencer. Je m'appelle Isaline Nicole, vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 22. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, que dis-je, la chance d'accueillir deux poètes de la place bruxelloise de renom. J'ai nommé Laura dans l'air, et Najad. Et Najad, tu es un slameur, storyteller, champion de France de slam en équipe. Alors Laura, tu es poétesse à tes heures et tu as déjà publié deux recueils de poésie, Murmuration et Recoudre la nuit. Et tu as aussi publié La carte de séjour. Et tu es aussi créateur de podcasts. Donc, en plus d'être un slameur, t'es un slasher. Un arc n'aurait pas assez de cordes pour déployer tous tes talents. Mais nous nous sommes rencontrés lors de quelques scènes ouvertes. Et Laura, la première fois que j'ai entendu tes textes, c'était lors de la soirée poétique de Elia. Très belle soirée d'ailleurs, qui a lieu une fois par mois à Bruxelles. Et j'avais ensuite participé à quelques-uns de vos ateliers, puis au stage slam à la fin de cet été, et j'avais adoré. Alors, vous êtes tous les deux les fondateurs de Slam Queue. Non? Voilà, ça commence bien. Slam Queue, Slam, qui est à Bruxelles. Et c'est vous qui le faites vivre hein, à travers vos ateliers, vos scènes ouvertes, etc. Alors, moi, j'aime bien commencer mes interviews comme ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en quelques mots, pardon, qui êtes-vous aujourd'hui et d'où venez-vous?
Donc, je m'appelle Laura dans l'air, mais dans l'air parce que j'ai un nom de famille qui est juste imprononçable, c'est Schlichter. Donc j'ai gardé juste le R de la fin et j'ai dit, ah mais ça, c'est de ce dont j'ai besoin, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air. Et je crois que c'est ce qui me caractérise. La poésie, pour moi, c'est le souffle, vraiment. Ça a été, c'est une sorte d'élan vital. Et donc ça m'est un peu tombé dessus il y a 5 ans. Et je pense qu'au gré de l'échange qu'on va avoir ensemble, je vous raconterai un petit peu mon parcours, mais qui je suis aujourd'hui, ben c'est vrai que la poésie prend beaucoup de place et ce terme de poétesse est un terme important. Slameuse aussi parce que ça raconte aussi mon goût et mon affection pour l'oralité profonde, profonde, profonde. Et l'oralité, c'est partager, mais c'est aussi recevoir. C'est-à-dire que j'ai des oreilles très, 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 très grandes ouvertes à la poésie et ça me nourrit profondément.
Ok. Toi, Nadja?
Déjà, merci Isaline pour cette chouette introduction. Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans l'élan d'une battle de compliments
Ah ouais,
cet
c'est vrai.
été. Et pour présenter en quelques mots, donc je suis Najad, artiste slameur, bruxellois depuis 5 ans. Je suis né, j'ai grandi en région parisienne à Épinay-sur-Seine. Je viens d'une fratrie de 5 enfants, heureux tonton de 8 neveux et
Ah ouais.
nièces, et amoureux des mots et de la poésie.
Ok. Et alors, comment est tombée la poésie dans votre vie?
Alors, c'est un long, long chemin. La poésie, en tout cas en tant que performeur, enfin en tant que slameur, elle est tombée très tard dans ma vie. Voilà, j'ai eu le goût des mots pour écrire après la fin de mes études. En fait, après la fin de mes études, j'étais chargé d'événementiel et un jour, j'ai eu l'idée de créer un roman culinaire qui s'appelait Macaron, le président français qui est devenu Comorien 24-7. Et voilà, c'était une histoire dans laquelle, qui se passe dans le futur et dans un futur un peu dystopique où j'imaginais que on pouvait acquérir la nationalité comorienne via la cuisine. Et en fait, le livre se finit par un très très grand poème. Parce que ouais, je voulais faire des remerciements, mais je trouvais ça un peu plate de faire des remerciements, merci un tel, un tel, un tel. Donc j'ai écrit un poème qui a fait une page, 2 pages, 5 pages, et puis ça a monté jusqu'à 6 pages. Et après, je me suis dit, bah, ce serait chouette d'en partager des bouts dans quelque part. Et j'ai mis Scène Slam, voilà, en pensant à des vieux souvenirs de Grand Corps Malade, c'était en 2017. Scène Slam Paris, j'ai trouvé la première que j'ai fréquentée pendant 2 ans et demi. Et c'est comme ça que la poésie est rentrée en fait en tant qu'acteur. Et après, j'ai pas tant que ça de souvenirs scolaires de poésie, c'est plus de romans, de littérature. J'adorais l'histoire, la géo, la géopolitique, mais de la poésie à l'école, j'en ai fait, c'est sûr. Hein. Mais il n'y a pas d'auteur comme ça qui me revient, mais il y a d'autres pans culturels qui me reviennent plus en tête.
Ok. Et toi, Laura?
Alors moi, c'est un goût que j'ai depuis longtemps. J'en ai fait une partie de mon métier. Je fais de la communication depuis toujours, et avec une sorte de spécialisation quand même pour le rédactionnel. Donc, manipuler la matière mot, c'est quelque chose que je fais au service d'eux depuis trop longtemps. Donc, sans le raconter trop, j'ai toujours un stylo au bout de la main. Donc, Mais ça s'est transformé, ça s'est orienté vers la poésie avec une rencontre très forte dans ma vie qui a été un peu une rencontre, enfin pas qu'une, des rencontres, je crois que c'est ça. Et de toute façon, je disais que j'avais des oreilles grandes ouvertes à la poésie, mais aussi à la rencontre. C'est vraiment ce qui m'anime très très fort. Et donc, j'ai rencontré une amie qui était, elle, poétesse et qui a découvert le slam. Bah, au travers du même stage que tu as fait Slam et Queue, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Hein.
D'accord.
Et qui m'en a parlé et qui m'a dit « Toi, tu aimes quand même et la musique, parce que j'ai un parcours conservatoire quand j'étais petite, et écrire, ça devrait te plaire, j'ai passé une semaine formidable. Voilà, renseigne-toi un petit peu. » Et c'est ce que j'ai fait. On était en plein confinement et un collectif historique. Alors, Slam et Queue qu'on cite depuis un certain temps, là, depuis le début, c'est le collectif historique bruxellois, mais il y en a d'autres dans d'autres provinces et dans d'autres grandes villes de Belgique, notamment à Liège, avec le collectif Elle Slam, Elle pour femme.
Ouais.
Et donc, c'est le premier collectif féminin à une époque où la mixité sur les scènes et même la place des femmes sur le dire, voilà, dans ce que ça peut aussi amorcer de militantisme et d'engagement, c'était compliqué. Donc, elles ont eu ce besoin de se regrouper en un collectif et de créer des scènes où la place de la femme était centrale. Et donc, dans ce collectif, il y a des figures emblématiques comme Lisette Lombé, notamment,
oui.
Et puis Julie Lombé, et puis Mel Moya, et puis j'en oublie déjà, mince. Et puis, pourquoi j'oublie? Oui, Cindy Vandermeulen. Bref, voilà. Donc, ces femmes qui sont encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça existe, et sur le devant de la scène, et elles ont ouvert des parcours et une inspiration folle. Et donc, Lisette Lombé. Organise à distance, c'est l'histoire que j'expliquais à Nadja tout à l'heure, un stage 4 fois 2 heures par Zoom et ouais. Et donc je pensais, parce que j'avais Grand Corps Malade, j'avais Abdelmalik, j'avais ces références là en moi, plus Abdelmalik j'avoue, et qui a été une grande 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 inspiration, figure pour moi, et je pensais que le slam, c'était ça, c'était en effet une sorte de poésie pas chantée, donc déclamée, mais j'avais même pas ce terme de déclamation qu'on entend, qu'on apprend plus quand on rentre un peu dans le milieu, et de la musique. Donc j'étais complètement à côté de la, enfin un peu à côté de la plaque. Et donc je dis, je me souviens, on fait le petit tour de présentation et dit, moi j'adore la musique. Elle me dit, bah le slam, c'est
oui.
Vraiment voilà la parole pure, nue.
Ouais,
et voilà, c'est triper un micro, quoi. Mais c'était bien, voilà. Et je me suis dit, ok, mais ça me va aussi, je vais rester.
C'est marrant ce que tu dis, parce que pareil, quand je suis allée à des premières scènes ouvertes, c'est ça qui m'a frappée, c'était la façon dont les gens déclamaient leur texte. Parce que moi, je fais du théâtre aussi à côté, et souvent, quand même, on joue avec les mots, etc. Et je me dis, tiens, mais le slam, il joue pas du tout avec... Enfin, voilà, ils déclament leur texte, mais c'est, oui, comme tu dis, c'est pur, quoi. Il n'y a pas de, entre guillemets, de mise en scène, quoi.
Oui.
Mais c'est intéressant, parce que, du coup, je pense qu'on est plus... on écoute mieux le texte, dans cette façon-là. Enfin, je ne sais pas.
Oui. On rappellera peut-être à un moment donné un peu le contexte des scènes ouvertes et les règles intrinsèques aux scènes ouvertes. Mais en effet, oui, il y a vraiment une écoute profonde sur le mot avec le fait que ce soit sans artifice. C'est ça un peu la formule. Et donc, blablabli, je vous fais la grosse formule. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à faire ça de façon plus synthétique. Mais en tout cas, je découvre par le biais de cette figure quand même que je positionne comme une de mes marraines, le slam. Et le premier texte sort de ma main. Je suis complètement fascinée par le fait qu'en 2 heures, j'ai réussi à écrire. Je pense que tout le monde se souvient de ce premier texte et de se figurer sans, voilà, de se figurer qu'il y a quelque chose qui est né, qui a coulé. Et bien sûr qu'on le critique, et bien sûr qu'on le juge, et bien sûr qu'on ne veut pas lui donner de mots. On lui dit, bah, c'est pas un poème ou c'est pas un slam, et c'est pas à la hauteur, et puis ça n'a pas de sens de le performer, peut-être pas, mais en tout cas de le partager sur scène. Donc on est complètement enveloppé de toutes ces couches d'illégitimité qui fait partie aussi, nous, dans nos, je pense, dans nos pratiques d'atelier, de faire en sorte de retirer aux gens un maximum. Et la notion de confiance et la notion de se lâcher la grappe est quand même hyper importante. Et donc, j'écris un premier texte qui s'appelle Murmuration et que je lis à des inconnus. Et je trouve ça absolument sidérant, effrayant, merveilleux. Et je me souviens encore de l'intensité du cœur qui bat à ce moment-là. Donc voilà, ça a été le déclencheur de 5 ans maintenant d'activité slam avec un goût immodéré pour le partage et pour être cette petite main dans le dos qui dit « Allez !» Ouais. Tu peux le faire, vraiment. Et c'est pour ça que le stage slam, que c'est un endroit merveilleux. C'est qu'on peut prendre le temps en plus de faire ça. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent dans des parcours après slam, même semi-professionnel. Enfin, on en a vu beaucoup. Voilà, je parle trop.
Non, c'est très bien. C'est ça qui est super aussi dans le slam, c'est qu'on a, et notamment au stage, on était tous un peu avec des styles d'écriture différents. On venait tous d'horizons... un peu différent aussi, donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est hyper nourrissant, quoi. Mmh. Donc, d'accord. Et alors, si on vient un petit peu plus en arrière, tu veux dire quelque chose, Nadjad, là-dessus ?
Non, ça va très bien, ça va très bien.
qui étiez-vous comment vous étiez enfant ? Est-ce que vous étiez des enfants avec un goût pour des jeux, enfin, pour l'imaginaire, construire des histoires ou pas du tout
Alors, en fait, j'avais pas J'étais quelqu'un, quand j'étais enfant, ado, j'étais quelqu'un de très curieux. Donc, voilà, j'avais 14 ans, par exemple, j'étais abonné à des magazines pour vieux comme Courrier International ou Canard Enchaîné.
Ah ouais, ouais.
J'avais un goût pour les films, pour j'adorais la bibliothèque quand j'étais petit. Alors après, c'était aussi lié à là où j'ai grandi, et il y avait une bibliothèque pas loin, et puis c'était souvent dans des espaces à la maison où il y avait du monde, donc c'était aussi un endroit de ça pouvait être un endroit chouette. Et du coup, j'aimais bien emprunter des livres, lire, mais j'avais pas le goût d'écrire, en tout cas.
D'accord.
Mais j'étais très curieux de magazines. J'étais souvent abonné à des magazines de foot. Quand j'étais ado, à des magazines comme le Courrier International, Canard Enchaîné. Et j'étais très curieux de ce qui se passait dans le monde. Donc j'avais ce goût-là de la curiosité. Aussi de l'humour, j'adorais un truc qui n'existe malheureusement plus. Bon, il y a des choses plus importantes dans la vie, mais l'esprit canal... Les émissions, même s'il y a des choses qui ont mal vieilli, hein. Guignol, Groland, Tocone Garcia, ça c'était, je suis arrivé un peu après. H, par exemple, H, j'adorais. Ah, les trucs qui ont mal vieilli dans H, mais H, j'aimais bien. Et j'adorais ça, j'allais même aux émissions télé, j'habitais pas trop loin, j'étais à une heure de bus, j'allais, quand j'avais 15-16 ans, aller assister aux émissions de télé comme Guignol, Groland. Et ça, je pense que ça fait partie du terreau de ma curiosité, mais je n'avais pas le goût de conter des histoires, d'en écrire. Même en français, par exemple, quand il y avait le choix entre plusieurs options, entre commentaires ou écriture libre, je prenais le commentaire, ce qui est pour analyser les textes plutôt que pour en produire un. Donc c'est vraiment, comme j'ai dit tantôt, avec plus... quand j'ai eu l'idée du livre et après mes études supérieures, que ce goût pour l'écriture, il s'est déclenché.
D'accord. Et toi, Laura ?
Moi, je crois qu'il y a deux éléments importants. La musique. Donc, je le disais, moi, j'ai fait les classes musicales. J'ai fait 15 ans de hautbois.
Wow.
Ça laisse quelques séquelles. Non, j'ai adoré. Mais le conservatoire, et puis avec une rigueur, tout ça. Et je pense que ça a infusé profondément en moi. Et il y a une rythmique, une rythmique, et puis et un goût de la prosodie des mots. Et il y a le silence. J'ai le sentiment d'avoir été une enfant du silence. C'est-à-dire qu'on parlait peu à la maison. Et on se racontait très peu. C'est ce souvenir qui est peut-être pas réel, mais en tout cas c'est ce que je rapporte de mon enfance. Si mes parents m'entendent, je ne vous en veux pas. Mais ça voulait dire qu'il y avait, pour se raconter, et ben moi, mon truc, c'était de me raconter dans mes carnets, quoi. Donc, il y avait une écriture, mais qui n'était pas poétique du tout, mais qui était de l'ordre de la... comment dire, de la catharsis. Il fallait que je vide, que j'épanche tous mes travers et mes maux d'adolescente. Et puis, ça s'écrivait en grand et en rouge. Et la colère, il fallait qu'elle soit griffonnée. Et puis, je pense que voilà, j'ai trempé tous mes agendas Chevignon et Chippie. et j'ai une pile de beaucoup de carnets. Voilà. Volontairement, je ne réouvre pas. Je n'excave pas ça. Je veux croire que c'était terriblement romantique, romanesque et limite cinématographique. Donc, je reste dans mon fantasme. Je pense que ça ne l'était pas du tout.
Tu lisais toujours ces carnets ?
Non, oui, mais je ne les ouvre pas. Volontairement, parce que je sais la vérité.
Ouais, non. Mais quelquefois, tu peux être étonnée, hein. Parce que moi, j'avais pareil des carnets et quelquefois, je me suis amusée à les regarder. Je me dis, oh, mais j'écrivais bien à 13-14 ans déjà. Mais bon, bref. Mais oui, c'est en même temps, ça laisse des traces. Enfin, ça laisse des traces.
Oui. En tout cas, le geste de l'écriture comme catharsis, comme aller fouiller à l'intérieur de soi et vider le trop-plein, était déjà là.
Et est-ce que quand vous avez vraiment eu le déclic... de la poésie, du slam, etc. Est-ce qu'il y a aussi, alors il y a eu les stages que vous avez faits, mais est-ce qu'il y a eu un auteur ou un moment qui vraiment a fait confirmer ce déclic, quoi ?
Bon, je continue alors. Alors, il y a eu pour moi... notamment, alors moi je suis une amoureuse de Christian Bobin depuis très longtemps. Moi j'ai le sentiment qu'il m'a souvent sauvé la vie. Et j'ai une sorte de rituel, c'est que j'ouvre, quand je vais pas bien, j'ouvre des pages de Christian Bobin et c'est une sorte de, comment dire, d'oracle. Mm-hmm. Il me raconte que ça va aller mieux. Alors c'est pour ça que je l'aime d'amour. Ça va toujours un peu mieux grâce à lui et grâce à la beauté de sa poésie. Et au moment où je découvrais le slam, il y avait Lisette Lombé que j'ai d'abord vue sur scène et donc la claque monumentale de me dire mais qui est cette queen absolue. Puis je fais ce stage par Zoom et j'ai l'impression d'être la plus chanceuse des personnes. Et puis il y a Laurence Vielle aussi. Que je découvre en 2016, une pote me dit, comme elle le fait toujours, et je la remercie, Bénédicte, merci. Elle me dit, tiens, elle est prof, j'ai des places pour aller au théâtre, on y va. Elle me dit rarement ce qu'on va voir, et on y va, la base. Et donc, on y est allé. Et c'était au public, c'était dans la cave, et je vois cette femme accompagnée, je ne sais plus si c'était d'une violoncelliste ou une violoniste, peu importe, mais accompagnée d'une musicienne. Et pendant une heure, elle fait quelque chose d'absolument ouf. Et ça tombe bien parce que c'est le nom de sa performance. Ouf.
Ah oui, d'accord.
Voilà. C'était pendant la période où elle était poétesse nationale. Titre qu'on ne connaît pas, nous trois Français, hein, mais qui mériterait d'exister ailleurs qu'en Belgique, mais c'est merveilleux. Et je vois quelque chose qui me sidère littéralement. Sur lequel je ne suis incapable de mettre un mot. C'est pas du théâtre. Et puis moi, le mot poésie, finalement, je le situe pas ou je le situe à l'intérieur, fermé dans un livre. Mais comme ça, oralisé, performé, j'ai pas le mot slam, je sais pas si elle se reconnaît du slam, enfin, pour avoir déjà parlé avec elle. C'est vraiment la poésie orale, quoi. Et je vois cette chose, c'est une sorte d'ovni, quoi. Et cette singularité qu'a cette comédienne et poétesse qu'est Laurence Vielle avec ce non-verbal incroyable. Bref, je sors de là, je tremble un peu en me disant mais de quoi je sors ? Alors Bénédicte à côté de moi, elle n'a pas été touchée, donc je ne pouvais même pas partager cette chose qui venait de me traverser. Et il y avait une petite librairie avec le recueil et un CD. Je vous assure que j'ai saigné ce CD. C'est-à-dire que c'était pour moi. Je me raccrochais au fait que ça existait parce que c'était là. Je l'avais sous les yeux et je l'avais dans les oreilles. Donc ça a été ouf.
D'accord.
Et toi, Nadia?
Moi, déjà, de tes deux dernières réponses, je retiens qu'on va faire une scène slam, slam et au bois, accompagnée par Rachister. Ah, voilà. C'est vrai qu'on est en manque de concept. On n'a pas. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 2026, on fête nos 10 ans sur 4 jours et on cherche encore des concepts, oui. Donc voilà, je pense qu'on a, on a une nouvelle scène ouverte à lancer. Tu nous accompagneras au bois.
Une scène slam musicale.
Ouais. Slam au bois, effectivement.
Et au bois, j'ai nommé Laura. Bien sûr.
Et du coup, le déclic dans la... Enfin, parce que voilà, aujourd'hui, c'est devenu mon travail, mon métier. Head slammer. Le gros déclic, ça a été, pour ne pas être très original, le stage slam que j'ai fait. Donc, j'étais une fois de l'autre côté en tant que participant. L'année du Covid, en juillet 2020, c'était assez particulier. À un moment, c'était un moment où j'étais un peu semi-dépressif. Je faisais les scènes ouvertes en ligne avec Slameke et d'autres. Je m'étais pas rasé pendant des mois. En plus, j'étais revenu vivre chez mes parents. En fait, je devais, juste avant Covid, le jour du confinement, je devais commencer un nouveau travail à Bruxelles.
Ah oui.
Et on nous a dit, bah non, c'est reporté, puis ça a été annulé. Donc je me suis retrouvé chez mes parents à 30 piges, chose auquel je ne m'attendais pas. C'était pas le plan de vie. Et voilà, après, c'était un moment fort pour tout le monde. Donc là-dessus. Et je fais ce stage-là, donc du coup, 5 mois après voilà, le début du confinement. Et voilà, c'était un peu particulier parce qu'on. Il y avait les premières fois que je fais quelque chose de collectif, mais il y a le Covid, il se matérialise dans le sens qu'on a des masques, on est un peu éloignés les uns des autres. Mais c'était notamment animé par Zouzetea et j'ai adoré comment ils ont mené les ateliers, les exercices d'écriture et surtout de mise en forme orale. Parce que avant ça, j'allais dans des scènes slam en général une fois par mois et je me mettais comme défi d'écrire un nouveau texte. J'écris mon texte. Je le lis même pas, je le dis le jour J où je fais la scène ouverte et j'en passe à un autre. Et là, c'est la première fois qu'on allait un peu plus loin pour habiller son texte, créer des ruptures, du relief, l'habiter avec son corps. Et j'ai adoré. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on apprenait beaucoup les uns des autres. On avait des univers hyper différents. Il y avait un homme politique, il y en a qui venaient des milieux queer, il y avait des artistes. Il y a un artiste comme Zaymoun, voilà, qui chante, qui rappe, qui compte. Et vraiment, on se nourrissait les uns des autres. Et il y en a plein avec qui... effectivement, c'était aussi le stage où il y avait une poétesse qui se nommait Dorothy. Qui se nomme Dorothy. Donc oui, on s'est beaucoup nourris les uns les autres dans ce moment qui était particulier de... On ne sait pas comment la vie culturelle slash vie va reprendre.
Ouais,
ça. Et ça a été un gros déclic pour donner envie d'aller plus loin, quoi, d'aller plus loin dans la manière dont je restitue mes textes. Slash, est-ce que... je pense que ça a été le premier jalon aussi de... entre ce moment-là, le moment où je me lance à plein temps dans le slam, il se passe 2 ans. Et ça a été la première pierre, en fait, avec le recul, pour arriver à ce stade-là.
D'accord. Donc, en fait, c'est pour vous deux, c'est, entre guillemets, c'est récent, quoi. Vous n'avez pas 20... Enfin, oui, c'est pas depuis vos 15 ans que vous écrivez, vous slammez, etc. Donc...
Je savais même pas... je connaissais quand même Grand Corps Malade,
oui,
mais...
Oui, c'est ça, mais en fait...
Je savais même pas que, que les scènes ouvertes existaient toujours. Quand j'ai cherché en 2017, je savais même pas que ça existait, quoi.
Ouais. Mais là, ça a explosé, la poésie. Depuis... Enfin, moi, je trouve depuis... alors, je sais pas, peut-être depuis plus longtemps, mais je trouve depuis 2 ans, que ce soit des scènes ouvertes ici à Bruxelles, je vois même à Paris, il y a pas mal de choses aussi qui se font. Et comment on peut... Comment vous expliquez ça ? Est-ce que les gens se mettent à slammer ou à faire de la poésie pour aller mieux dans cette société ? Non, mais c'est vrai, pour se faire du bien dans cette société qui est un peu bancale en ce moment, ou comment on peut expliquer ça ?
Alors, en tout cas, oui, il y a des indicateurs tangibles qui permettent de comprendre qu'il y a une recrudescence ou une explosion des scènes slam.
Ouais.
Ouais, moi, par exemple, je suis amené à faire la newsletter du collectif dans laquelle je recense les autres scènes slam qu'il y a à Bruxelles. Et par exemple, ce mois-ci, il y en a 14. Et il y a 2 ans,
À Bruxelles.
à Bruxelles, oui. À Bruxelles, il y en a 14. Il y a
Wow.
2 ans, il n'y en avait pas autant. Et effectivement, il y a une montée. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Je pense qu'il y a plein de lieux qui ont compris que c'était un moyen, effectivement, de fédérer un public autour de la poésie. Ensuite, il y a des gens qui ont participé à des formats slam, à des événements, à des stages slam, qui ont
Oui.
fondé des
Ouais.
initiatives, des formats, des collectifs, et qui eux-mêmes ont essaimé des scènes. Ensuite, par rapport au Covid, il y avait par exemple les milieux queer qui étaient très actifs. Ça a été le milieu le plus actif pendant le Covid et qui a fait pas mal de scènes de manière non officielle. Et voilà, quand ça s'est détendu, bah, il y a eu un élan par rapport à ces scènes-là. Ensuite, il y a eu plein d'artistes qui se sont professionnalisés. Donc, tu parlais de Lisette, il y a eu Joy, il y a eu Zouzé Théa, Marie Dara, Joël Sambi, Julie Lombé, Mel Moya. Et donc, voilà, autour de ces figures, de ces artistes, il y a des scènes qui émergent aussi de manière ponctuelle ou plus pérenne. Et donc, je pense que tous ces mouvements-là ont fait que le nombre de scènes a explosé. Et effectivement, il y a aussi un fond dans le slam qui est très là, qui est très mélancolique. Donc c'est vrai, et que quand on dézoome un peu la focale sur la situation mondiale, c'est clair qu'on n'est pas dans la période la plus heureuse de l'humanité. Je sais pas, mais en tout cas, on est clairement dans une période qui a des aspects moroses. Donc forcément, ça contribue à ce que des gens aient envie de slammer et partager ce qui les traverse sur scène.
Ouais, puis l'amour des mots, enfin, j'ai l'impression que ça revient et c'est tant mieux, quoi. Même les plus jeunes reviennent à aimer écrire, aimer les mots, quoi.
Mais je compléterai en disant que il y a quand même dans le slam, pas que, mais si moi je devais un peu le résumer, c'est quand même ce qui brûle à l'intérieur qu'on a la possibilité de partager. Et à l'horizon d'une société, il n'y a pas tant d'endroits où la parole, alors poétique, poétique pourquoi? Parce que la parole un peu digérée, c'est en ça que c'est important. Parce que le brûlot direct, on ne peut pas tous l'absorber. L'avantage, en tout cas, le fait de passer son discours par le prisme de la poésie, c'est que c'est peut-être plus facile aussi à recevoir nous en tant que public. Une scène slam, c'est un espace quand même donc où la parole est libre. Mais aussi, nous, animateurs de scène slam, on doit faire en sorte que le public puisse passer un bon moment. C'est quand même c'est une soirée de divertissement, même si. Donc, il ne faut pas que tout le monde parte en thérapie après ça. Enfin, ce n'est pas le but. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font déjà ce joint-là. Mais l'idée, c'est que ça nous rassemble. C'est d'abord ça. L'objectif d'une scène slam, c'est vraiment la rencontre par les mots, la rencontre par l'intimité de ce que racontent les textes. Et c'est en ça que c'est hyper fort, c'est que bien souvent, bah, on parle, c'est intimité, extimité, quoi. C'est le fait que voilà, on mette un peu dans ses mains tout ce qu'on a à l'intérieur, tout ce qui brûle, et qu'on dise, qu'on le montre en disant, bah voilà. Voilà ce qui brûle. Est-ce que toi aussi, ça brûle au même endroit? Oui, non? Eh ben, parlons-en ou faisons avancer notre réflexion. Et c'est vrai que le contexte anxiogène actuel fait que je pense que ces territoires-là d'expression, c'est précieux. Donc nous, on les entretient comme quelque chose de précieux. Et au lieu de se dire, ben, on a 13 autres scènes concurrentes, on se dit qu'il y a 14 occasions dans le mois de pouvoir aller se faire un peu de bien, parce que c'est un peu la démarche. Et si on ne dit pas, bah, on peut écouter. Et écouter, c'est aussi se sentir moins seul, parfois, face à des choses qu'on traverse, qu'on vit. Et puis, je crois que les réseaux aussi ont favorisé le partage de ces rendez-vous. Et puis même la poésie, moi je le vois, je suis une utilisatrice un peu frénétique d'Instagram, et la poésie est ultra présente sur Instagram,
Ouais, c'est
vraiment.
vrai.
Donc ça a été, moi je vois depuis 5 ans, les poètes, poétesses sur Instagram ont vraiment une plateforme d'expression. Donc je crois que ça a aussi alimenté le fait que la poésie reprenne un peu le devant de la scène et en tout cas se dépoussière de sa petite couche romantique, voilà, de ce qu'on pouvait apprendre au lycée. Enfin, moi, j'ai appris ça, que la poésie, c'était d'abord du romantisme et ça ne me plaisait pas forcément. Donc, je n'ai pas accroché à la poésie à ce moment-là. Mais là, j'accroche parce qu'elle me raconte une histoire qui est ancrée dans le réel et dans le présent.
Tout à fait.
Et c'est ça, en fait.
Ouais, ouais. Et ça, c'est vrai parce que la poésie, quand on apprend la poésie à l'école... Oui, enfin, moi je sais que enfin, j'étais assez littéraire, donc j'aimais bien ça, mais je pouvais comprendre que la plupart, c'était un peu poussiéreux parfois, quoi. Enfin, puis bon, c'est dit en alexandrin, etc. C'est ça qui est bien aussi dans le slam, c'est qu'on peut s'exprimer comme on veut. Et
tu avais des souvenirs de quel auteur, autrice
T'as dit quoi ?
C'est nous qui me faisons l'interview maintenant.
Alors moi, non, mais même quand j'étais plus petite, tu vois, genre des choses genre tout à fait imagées, Jean de La Fontaine ou des choses comme ça.
Ok.
Bon, c'est vraiment très poésie pour... Bah non, c'est pour les... Oui, c'est... mais en fait, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu relis ça à étant adulte, tu te dis, ah ouais, d'accord, tu comprends le sens caché de tout, mais c'est vrai que... C'est vrai que, mais j'ai pas de poète comme ça qui me vient à l'esprit. Non. Bon, après, c'est plus. Moi, j'aime bien. C'est. Ou des auteurs qui ont été vraiment hyper. Enfin, intéressants, comme du Maupassant, du Balzac. Moi, je trouve que c'est vraiment des. Pareil, ils jouent avec. Enfin, ils jouent pas avec les mots, mais il y a quelque chose que j'aimais beaucoup dans leur. Dans ce style-là, quoi. Mais et moi je mais ça me paraissait inaccessible, je me dis mais être poète c'est pour des gens très littéraires du monde de je ne sais pas, moi je venais de ma Bretagne, je me disais c'est pour les Parisiens quoi, enfin c'est pour faut habiter à Paris, faut être sur la place de littéraire quoi. Et c'est ça que je trouve ça génial aujourd'hui, c'est que ça s'est démocratisé et dans le bon sens, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent superbement bien, comme vous d'ailleurs, et c'est accessible, voilà.
Mais je crois que dans les arts, et le fait que cet art oratoire-là puisse être mis dans toutes les mains, et on voit, hein, on va dans les écoles, primaires, secondaires, beaucoup, mais pas forcément dans des filières littéraires, ça peut être des filières techniques, donc avec des élèves qui ont plutôt subi le fait qu'on soit là, parce que c'est pas eux qui l'ont choisi, c'est la prof, et on les embarque dans des championnats, enfin bon, bref, on leur fait vivre des histoires pas possibles et des expériences incroyables, et puis un jour, ils finissent sur scène et ils disent leur premier texte tout tremblant, et puis ils gagnent ou ils sont dans les sélectionnés pour une finale. Et c'est juste dingue à cette échelle. Et puis, bien souvent, on se dit, enfin, et moi je me suis dit mille fois, si j'avais eu un atelier slam quand j'étais au lycée, peut-être que je m'en serais emparée aussi. Donc, le fait que ce soit un art ultra accessible qui nécessite absolument rien d'autre qu'un bic et une feuille, ou son smartphone parce qu'on écrit de plus en plus directement dedans, voilà, ça permet de la pratique absolument partout. Et puis, c'est hyper intergénérationnel. C'est ça. Et en fait, quelle est la différence entre un bon chasseur et un bon chasseur et un bon slammer et un bon slammer ? C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon autant de styles d'écriture que de personnes.
Ouais,
il n'y a pas une référence. Alors, on peut avoir nos queens et nos kings, OK ? Parce qu'on est hyper sensible à un flow, en fait. Il y a cette histoire de la rythmique quand même dans l'écriture et du flow. C'est vrai qu'on n'a pas forcément tous l'alexandrin dans nos flows, mais on le déstructure et ça fait quelque chose d'hyper rythmique. Et c'est ça qui est beau, en fait. Et c'est ça peut-être qui fait que eh ben, la pratique grandit.
Oui. Et aussi, je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que moi, j'avais une grand-mère qui écrivait beaucoup. Elle écrivait des romans sur l'histoire, notamment l'histoire de Bretagne, etc. Et elle adorait aussi, c'est elle qui m'a un peu initiée à la poésie au début, elle adorait faire de la poésie. Et pour elle, bah, voilà, moi, dans ma vision de petite fille, les poètes, c'était des monsieur avec une moustache, un nœud papillon et un chapeau, quoi. Même des figures plus féminines, j'en connaissais moins à l'époque. Et voilà, parce que je pense, je sais pas, à Rimbaud, à Verlaine, enfin des gens comme ça. Mais où je voulais, où est-ce que je voulais en venir? Non, mais c'est pour ça.
Que l'influence était aussi familiale.
Et moi, je vous sais, même m'inscrivais à des concours de poésie et j'y allais. Et c'est pour ça, à un moment après, je l'ai perdu parce que pour moi, même j'avais peut-être une dizaine d'années, j'osais pas trop le dire à mes copines que je faisais concours de poésie parce que c'était un peu poussiéreux, quoi. Je me suis dit, c'est complètement un truc de personnes âgées, quoi. Parce que quand j'y allais, j'étais pas dans les plus... J'étais dans les plus jeunes, quoi. Mais ouais, c'est marrant. Et c'est bien qu'aujourd'hui, c'est complètement... Alors peut-être parce que ça m'intéresse depuis quelques temps. Et comme tu dis, sur les réseaux sociaux, j'en vois plein, etc. Mais... Je trouve qu'il y a quand même un bel engouement autour de ça.
Ouais, et puis, comme tu l'as dit, Laura, effectivement, dans les classes, on voit ce que ça apporte aux élèves. Et il y a effectivement cette même réflexion-là que quand, effectivement, tu faisais les concours de poésie plus jeune ou que tu étais influencé, effectivement, par ta grand-mère. Très souvent, il y a un décalage entre l'image qui projetait ce qu'on fait... pendant les ateliers et sont très souvent surpris sur ce que ça les apporte. Des fois, on propose effectivement des extraits, des vidéos, des projections d'autres slameuses et voilà, les élèves des fois vont fouiller et ils sont très surpris par ce qu'ils peuvent produire en solo, en équipe. Et oui, il y a très souvent ça, cette image effectivement poussiéreuse de la poésie qui appartient... poète et poétesse morte.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu as tout résumé, Nadjat. Et alors, parlons de vous. 2025, poétesse, poète, slameur, slameuse. Quels sont votre processus de création? Est-ce que vous avez des techniques plus que d'autres ou est-ce que c'est au feeling ou... Enfin, on a appris quelques techniques pendant le stage, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place tout de suite?
Oui, bien, tu vas devoir faire un deuxième épisode pour expliquer ça, mais je vais essayer d'être synthétique, surtout que c'est un processus qui a évolué et dans mon cas, ça a évolué entre le moment où je faisais ça en mode passion et où c'est devenu un peu plus professionnel. Quand je faisais ça en mode passion, en gros, mon seul objectif, c'était je vais à une scène ouverte tous les mois. Je n'ai pas envie de m'ennuyer, il faut que j'aille avec un nouveau texte tous les mois. Donc, chaque nouveau mois, il faut que j'écrive un texte. Soit j'écrivais dans mon coin ou j'allais de temps en temps à des ateliers d'écriture sur Paris. Pour être sûr que le mois d'après, j'ai un texte. Et c'était un texte, voilà, je l'ai dit une fois, il disparaît, on passe au suivant. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et quand voilà, ça a commencé à se structurer, se professionnaliser, que je suis amené à écrire pour un spectacle, pour des formats particuliers comme un livre, là, globalement, maintenant, comment j'écris de plusieurs manières. Souvent, alors, il y a la première que j'utilise peu, mais que j'utilise de temps en temps, c'est parfois je marche seul dans la rue ou chez moi, et dans ma chambre, je fais des tours. J'ai mon GSM à la main, et je me fais des yaourts tout seul, comme les chanteurs font des yaourts sur la musique en mode top line, pour me créer une mélodie que je pourrais utiliser pour un texte, parce que j'aime bien que d'un texte à l'autre, même s'il y a des flots qui se rejoignent dans ce que je fais, que la musicalité d'un texte à l'autre change. Mmh. Et donc, des fois, quand au moment de finaliser un texte, je vais réécouter ce yaourt-là pour essayer d'écrire par rapport à ce yaourt que j'aimais bien. Après, ce que je fais aussi, c'est... j'écris beaucoup sur mon GSM. Et en gros, soit j'ai déjà un thème, un angle, et par rapport à ça, j'écris beaucoup de phrases, beaucoup de réflexions. Et quand je pense que je suis assez... je vais commencer à écrire avec tout ce que j'ai là-dessus. Et après, j'ai des textes où, je vais revenir tous les jours, tous les 2 jours, et où je vais écrire des successions de phrases.
Ouais.
Et quand je pense avoir assez de phrases, parce que j'ai une écriture, du coup, qui est souvent calibrée pour 3 minutes, je sors tout ça de mon GSM, je passe à l'ordi, j'ai, 5-7 minutes de texte, et je vais ramener ça à 3 minutes. Donc maintenant, j'écris plus en partant comme à l'époque où ou quasi plus à l'époque où j'étais pas où c'était une passion, le slam. En mode, je suis devant une feuille blanche et j'écris, quoi. Il faut que j'ai un thème, un angle, et où que j'écrive plein de phrases, etc., pour condenser à la fin. Après, je suis de temps en temps, j'écris pendant les ateliers que je donne, ou je fais un atelier où j'écris et je peux écrire devant une feuille blanche. Mais le résultat me convainc souvent peu. Et c'est souvent des textes que je garde pas. Et en fait, le fait de faire ça, ça me permet de passer au tamis mes émotions, de laisser du temps passer, de me dire, ah, si la phrase a survécu avec le temps, c'est bien. Et la dernière étape, et la vraie étape finale pour moi, c'est d'aller tester le texte sur scène, en fait. Moi, j'écris énormément plus pour que ce soit dit que pour que ce soit lu. Et après, quand je vais dire sur scène, je vais tester, voilà, comment j'ai ressenti la phrase, comment elle ressort, comment elle est accueillie. Et puis après, je réécris avec ça, quoi. Et ça arrive qu'il y a des textes comme ça, le texte que j'ai le plus réécrit avec ce procédé-là, je l'ai écrit 7 fois, entre les allers-retours écrits et scènes, pour arriver à un moment où je pense arriver à une version où ça me convainc. Donc,
Oui, donc c'est pas, tu te mets pas une contrainte, tu te dis, là, en 30 minutes, il faut que j'écrive un texte.
Non, il faut que ça décante, quoi.
Ouais, c'est ça. D'accord. Et toi, Laura?
Alors, moi aussi, ça a quand même pas mal bougé. Quand j'ai commencé, donc quand j'ai suivi ce premier stage avec Lisette Lombé, on était... donc, j'ai un peu gardé ses conseils. Et le conseil que j'applique toujours, c'est une oralisation quasiment immédiate de ce que j'écris. Un vers, deux vers, trois vers, tu vois, j'écris mes premiers vers et puis je les écoute. Continue, je les écoute, je les écoute. Et en fait, ce passage à l'oral, or souvent, moi, je suis la folle du village qui parle toute seule parce qu'elle écoute, elle répète ses textes, ou bien elle lit son smartphone et du coup, dans le métro, bah, je lis, je murmure, mais bon, quand même, mes textes. J'ai besoin de très vite entendre la matière. Comment ça vient? Alors, ça vient souvent par une punchline ou par un titre, parce que c'est comme ça que j'écris depuis très longtemps, notamment sur Instagram. Et j'ai toujours un titre qui sonne un peu comme une synthèse, une clôture, ou bien qui va vraiment angler le thème. Et puis, une image mentale. C'est souvent ça. Ouais. Et à partir de là, j'ai une sorte de... Moi, j'aime le voyage. Et j'aime être surpris par le voyage. Je ne sais pas si toi, ça te fait la même chose. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Moi, mon kiff absolu, c'est de poser le premier mot que je connais parce que c'est à peu près le thème. Et puis, ou le titre. Et puis après, je vois ce qui coule. Je vois ce qui coule, je vois ce qui coule. Alors, tout n'est pas pépite, hein, évidemment. Mais déjà, le fait qu'il y ait un... C'est toujours un chemin de... c'est toujours un déplacement, quoi, entre le premier et quelle que soit la longueur. Alors moi, je ne suis pas slameuse à plein temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je me contrefiche de la longueur du texte. Je peux produire 3 lignes comme je peux produire 3 minutes. Et comme je partage tout, quasiment et volontairement, sur Insta... avec cette idée que ça peut inspirer d'autres personnes, et fut un temps je mettais toutes mes consignes et mes contraintes que je me mettais, de temps notamment, de thèmes, de mots imposés, de techniques, pour me dire on est tous un peu face à la page blanche, si une contrainte peut être prise par quelqu'un d'autre, et ça va nourrir ce qu'on fait individuellement mais collectivement, c'est-à-dire écrire de la poésie. Et donc j'avais des personnes qui me rejoignaient comme ça sur des thématiques ou sur des contraintes, et donc je me sentais aussi moins seule, et je me lâchais complètement la grappe par rapport à ce que je pouvais m'imposer dans ma vie professionnelle, donc de rédactrice, en disant c'est pas parfait. Parce que quand on écrit en 20 minutes, en 10 minutes, en 5 ou en 30, c'est pas parfait, c'est même peut-être pas abouti, mais c'est pas grave.
Ouais.
Et ça, c'est un chemin. Alors, on n'en fait pas une... C'est... Après, quand on souhaite publier ce genre de choses ou formaliser des formules de 20 minutes, de 30 minutes, de 40 minutes qu'on présente sur scène, c'est autre chose. Le texte a dû être éprouvé, souvent en scène ouverte, souvent devant un public, pour voir comment... Voilà. comment il est reçu, c'est important. Mais je suis ma première auditrice, c'est-à-dire je m'entends très vite et c'est mon levier d'ajustement, ma courroie, vraiment. Et quand ça sonne correctement, alors je sais que je peux le poser. Je peux le poser sur Insta, comme ça me permet aussi d'avoir un peu un ressenti. Et puis après, je vais le reprendre, je vais me dire qu'est-ce que j'en fais, est-ce que c'était un one-shot comme ça, voilà, un peu. Et puis, vit sa petite vie ou pas du tout, on s'en fout. Et, ou bien, c'est quelque chose qui. Après, quand je le revois 2 semaines après, je change quasiment rien. Et là, tu te dis, ou bien je change, ou bien je coupe, ou bien je rallonge. Mais j'ai besoin de le laisser décanter un petit peu. Et puis, c'est ce que tu disais. S'il y a des phrases qui survivent, s'il y a des couplets entiers qui survivent, alors on est sur du bon. Et on essaye d'aboutir à une version un peu plus finale qui pourra peut-être faire un chemin un peu plus long.
D'accord.
Voilà. Est-ce que j'ai dit à peu près tout, je crois. Mais c'est très fluctuant. Il faut pas croire que ça vient tout le temps, que c'est toujours là, que c'est une sorte de ressourcerie intarissable, que on peut appeler le poème comme ça, viens poème, viens. Non, malheureusement, je crois qu'il faut être là aussi. Tu parlais de curiosité quand tu étais enfant, mais je crois qu'on est des éponges. On est des éponges du monde, on est des éponges aussi de tout ce qu'on entend sur les scènes ouvertes. Et je crois que si on était seul sur notre île, on aurait plein de trucs à dire, mais à un moment donné, ça deviendrait un peu chiant et on tournerait en rond. Là, l'idée, c'est aussi de se raconter au travers d'une époque. Enfin, c'est ça qui est important aussi, je crois, comme un peu témoignage.
Tout à fait. Tout à laisser une trace d'époque.
Oui,
enfin, à notre façon.
En tout cas, à notre façon, et même si elle est immatérielle et que par l'oralité, ben, elle existe, et si elle fait son chemin dans l'esprit, ou elle réconforte, ou elle fait un petit bout de chemin avec une personne qui l'a reçue, moi je trouve ça merveilleux. Et au début, je me disais, je vais pas publier, ça n'a aucun sens. En plus, mon premier, c'était sur mon éco-anxiété. J'étais là, mais on va pas couper des branches pour imprimer mes mots. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis, j'ai repensé à tout ce que j'ai sur ma table de nuit, qui est parfois des lieux de ressources. Quand on va pas bien, on sait qu'on a un peu nos livres doudous. Et alors j'avais pas cette prétention, mais je comprenais la démarche et je m'étais dit je vais aller dans une maison d'édition qui fait les choses bien, avec une certaine éthique, même dans leur façon d'imprimer, et puis qui imprime pas de toute façon des quantités astronomiques, qui aura pas de pilonnage à la fin, enfin voilà, donc on va imprimer du modeste et ce sera parfait, et puis on va avancer comme ça et on verra, et je ne le regrette absolument pas parce qu'on ne lit pas de la même façon qu'on entend, mais dans Murmuration, donc mon premier recueil, j'ai mis un QR code pour qu'on puisse quand même sur les longs textes. Le flow du slam, il n'est pas facile à lire tout le temps. Et moi, je m'étais dit, c'était mon premier frein. Je me dis, mais peut-être que les gens ne vont pas recevoir exactement de la même façon. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire un QR code, je vais m'enregistrer. Et comme ça, sur... Voilà.
Ouais, ouais.
Et comme ça, ils pourront entendre les plus longs slams. Et voilà, là aussi, je trouve, ça a été mon déclencheur et je l'ai proposé à la maison d'édition qui m'a dit pas de soucis. Et on a fait ça. Et je réconciliais l'oral et l'écrit. Voilà.
Et c'est la maison d'édition, pardon, qui est venue te chercher, ou c'est toi qui tu t'es dit j'ai envie d'écrire un recueil de...
Alors, j'aurais rêvé qu'on vienne me chercher.
Non, je sais pas.
La réalité est tout autre. Non, c'est un coup de cœur. J'ai cité mes grands coups de cœur. J'ai cité Laurence Vielle, j'ai cité Lisette Lombé. Ce sont deux autrices qui sont dans notre maison d'édition qui s'appelle Maelstrom Réévolution, qui est une maison d'édition belge. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces éditions, physiquement. Ouais. Puis, j'ai découvert qu'il y avait une librairie spécialisée dans la poésie. Je trouvais ça génial. Et donc, il fallait que j'aille voir ces plages Jourdan, à côté de la plage Jourdan. Et je suis rentrée dans cette toute petite boutique. Physiquement, elle doit faire, 30 mètres carrés, quoi. Même pas. Et remplie de toute cette poésie. Et j'ai dit, je veux habiter là. Voilà. Je veux habiter. Littéralement, je veux habiter là. Et puis, j'ai vu que ça tournait avec des bénévoles. et je me suis proposée comme bénévole. Et puis, au moment où mon projet de manuscrit est arrivé, je me suis dit, bah, je ne vais pas proposer à Malmström parce que, pour une raison évidente, s'ils me disent non, je vais être très triste, en fait. Je le comprendrai, mais je vais être très triste. Et j'ai pas envie qu'il y ait une sorte de malaise qui se mette en place, même si j'accepte le non. Hein, mais bon, voilà. Donc, je l'avais envoyé à deux autres maisons d'édition, mais quand même à Malmström, parce que c'est ma maison de cœur et que voilà, je connais D'accord. maintenant toutes les personnes à l'intérieur. J'ai fait 1000 rencontres grâce au fait d'être bénévole. Et puis j'ai eu la chance que les trois maisons me donnent un retour positif. Et la dernière qui s'est manifestée, c'est Malmström, parce que son directeur n'avait pas beaucoup de temps. Et bah, des oui, celui-là comptait encore plus oui. dans mon cœur. Et donc, j'ai dit, bah, je suis très, 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 très flattée. Mm-mm. Et je vais dire oui. Donc, c'est comme ça que le chemin s'est fait.
Mais... C'est super parce que moi, je le redis encore, c'est comme quoi, ça n'est pas si longtemps que ça et tout se met en place.
Mais la rencontre, enfin les rencontres au pluriel, hein, qui sont des points de bascule, tu vois, insoupçonnés. Je reviens d'un voyage au Canada et j'ai été invitée pour un festival donc qui s'appelle le FISPA, qui a lieu en octobre tous les ans, et festival international de poésie de slam et poésie, sinon ça fait pas FISPA.
Ouais.
Et c'est 50 artistes qui sont invités de toute la francophonie mondiale, et donc rencontre, pas au carré, au cube, mais exponentielle fois 1 million, quoi, enfin, en tout cas fois 50. Et grâce à un alignement de planètes que je ne saurais expliquer, mais beaucoup de chance dans les rencontres, en fait. Et voilà, je me sens très, 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 très chanceuse.
Et comment on fait pour se faire inviter à un festival ?
Ah bah, je sais pas, j'ai toujours pas compris.
D'accord. Ouais, mais
attends,
quoi ?
Comment dire ? Des anges gardiens, je crois. Mmh. On a cité Dorothy quelques fois de façon un petit peu insoupçonnée, mais c'est cette personne, cette amie très proche qui m'a fait rentrer en poésie et qui est décédée il y a 3 ans. Et c'est littéralement elle qui m'a fait découvrir cette pratique. Et je lui en suis gré très très fort. Et c'est elle qui m'avait fait découvrir pendant le Covid ce festival qui était à l'autre bout de l'Atlantique, mais qui faisait des lives. Et donc, on pouvait voir des slameurs, parce que des slameuses pratiquaient. Là, on ne pouvait pas le faire physiquement parce que toutes les scènes étaient fermées. Donc, c'est comme ça que ça m'a permis d'entendre ce qu'était le slam réellement. Enfin, réellement, en tout cas, par ce biais-là. Et donc, j'avais un lien très particulier avec cet événement, mais sans plus. Et puis, les réseaux ont fait que la directrice Marie-Thérèse me suivait sur les réseaux, a suivi mon parcours, tu vois, mais c'était pas... Donc, c'était une grande, grande, grande surprise. Et voilà.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à vous former ? Vous faites à nouveau des stages ou des ateliers ou des workshops ?
Je continue à me former à plusieurs niveaux. C'est clair que pour l'écriture, maintenant, aller dans des ateliers d'écriture, ça m'intéresse, moi. J'en ai beaucoup fait pendant 3 ans, j'en donne. Et donc, c'est pas là où je me forme. En revanche, voilà, depuis 2 ans, je fais des cours de chorale chaque mardi parce que je suis en train de développer un spectacle.
Ah oui, c'est ça.
Et dedans, il y a une chanson à un moment donné, et c'est la raison qui fait que je vais vraiment au cours de chorale, voilà, pour mieux poser ma voix et oser chanter cette chanson. Donc je me forme à ce niveau-là. Aussi, je me forme pendant les résidences. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai un projet de spectacle qui a pu grandir avec une équipe, qui a eu une bourse de l'AFWB et qui va avoir le jour l'année prochaine. Et du coup, pendant les périodes de résidence, je me forme avec une metteuse en scène qui s'appelle Lisa Tonelli, et voilà, qui m'aide à gérer mon jeu, non-jeu, parce que voilà, ça reste en partie du slam, mais dans le slam, on reste qui on est, mais comme c'est un spectacle, il faut quand même qu'il y ait une partie où on est amené à jouer, qu'on le souhaite, qu'on le veuille ou pas, donc j'ai pas de formation théâtrale,
ouais.
et j'ai pris très très peu de cours de... de théâtre depuis 3 ans. J'ai dû faire des demi-journées de stage, 4-5 à tout casser. Je pense que c'est la bonne partie, une grosse partie où je me forme. Et puis, il y a une autre partie qu'on oublie souvent en tant qu'artiste, c'est la partie administrative sur laquelle je suis amené à pas mal me former. Alors, je suis dans un collectif où de temps en temps, j'embrasse des tâches administratives. Mais c'est aussi, en fait, c'est tout simplement au niveau personnel. Et donc, il y a plein d'organismes à Bruxelles qui accompagnent les artistes et qui proposent des formations, des fois gratuites, des fois payantes, et qui aident à avoir une meilleure vision sur des aspects administratifs, juridiques. Et donc, ça, je fais des formations très régulièrement là-dessus pour être à jour, parce qu'on est dans des contextes où la législation est importante pour et contribue aussi à ce qu'on ait des projets ou pas. Et la législation évolue, donc voilà, il faut se tenir au courant, informé. Surtout que là, on est dans un domaine qui est très lié à des subsides. Voilà, donc on a des projets qui voient ou qui ne voient pas le jour si on arrive à avoir des subsides. Et donc pour avoir des subsides, il faut être à jour personnellement et avec l'organisme à partir duquel on émet la demande. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de
D'accord.
cet aspect-là et ça fait aussi partie du métier, voilà. Mais si c'est la partie la moins appréciée slash sexy dedans, quoi. Mais du coup, on se forme aussi à ce niveau-là.
Alors, peut-être pas de façon formelle, mais j'ai l'impression que je suis toujours au début de quelque chose et que je commence toujours. Que je ne sais jamais rien de façon aboutie. Donc c'est toujours des petits pas et c'est toujours des premières. Il y a eu la première fois le texte, puis la première fois sur scène, puis la première fois peut-être animer une scène slam, puis animer un atelier d'écriture, et puis aujourd'hui travailler avec un musicien, puis travailler avec 3 autres poétesses pour faire une performance collective. Et c'est l'art de croire en son instinct. Donc c'est ça peut-être que j'apprends le plus depuis que je me déploie dans une activité vraiment purement artistique et que j'ose le nommer ainsi. C'est ça, c'est croire en son instinct et professionnaliser son instinct. Je ne sais pas si, mais peut-être que je vais organiser des stages de professionnalisation d'instinct. Voilà. Et j'ai pas de temps, beaucoup plus de temps. Donc je découvre plein de choses. En effet, co-gérer un peu sous des aspects différents, Slameke me fait découvrir les arcanes de qu'est-ce que c'est que tenir une ASBL artistique. Voilà, il y a une partie événementielle très forte. Il y a plein de choses. Donc pas de face, pas avec un prof. Mais en tout cas, ça ouvre des champs d'exploration obligatoires et très enrichissants, bien souvent. Donc ça va.
D'accord. Et justement, depuis que vous avez commencé à slammer, etc., est-ce que vous avez senti que... Est-ce que votre technique d'écriture évolue? Ou... Enfin, je pense que oui, mais... Est-ce qu'elle évolue en fonction de ce que vous vivez avec votre vie, avec ou pas du ou elle reste vous avez toujours un peu la même patte depuis le début?
Pas sûr d'avoir
Ah
compris la
non.
question.
Mais est-ce que ta technique, parce qu'au début, je pense que c'était ouais, ta technique a évolué, tu es plus à l'aise dans l'écriture, ça devient plus automatique, comment ça se passe?
Et par rapport aux événements de vie, parce qu'il y avait une question
Ouais,
partie
en
de.
fait, je pense que plus tu évolues dans la vie, plus peut-être ton style d'écriture va changer ou va évoluer en fonction de ce que tu vis.
Je pense que à ce niveau-là, en fait, tu recules quand même maintenant depuis, 8 ans que je fais du slam et que j'écris pour le slam. Ce dont je me rends compte, c'est que globalement, on revient sur les mêmes thèmes, en fait, et que on revient sur les mêmes thèmes et que l'angle change avec l'évolution, avec les rencontres de vie, avec effectivement, ce qui nous traverse, avec des angles morts qu'on a plus ou moins vus, en fait. Et donc, plus que le style, c'est plutôt oui, la manière dont on va aborder des thèmes. Et on va tourner autour qui a beaucoup changé. Ce qui a changé aussi, c'est que bah justement, par rapport au fait que je fais un spectacle, que de temps en temps, j'essaie d'écrire des chansons, de plus en plus, je m'efforce de raccourcir mes textes. Alors déjà, effectivement, par rapport au fait qu'on a 3 minutes, c'est vrai que tu parlais du fait que tu te permettais de faire des choses courtes, longues, et de sortir de la notion de format. De plus en plus, je fais des formes où je condense mon écriture. Par exemple, même sur Instagram, quand je partage des extraits, je partage des 4 à 8 phrases. Il y a 8 ans, voilà, quand je vous avais parlé des remerciements pour le livre, ça faisait 6 pages. Pour moi, c'était un texte. Fallait que ça, plus ça dure et plus c'était bon. Et en fait, maintenant, je me rends compte en faisant beaucoup de scènes, la tension disparaît. Et puis, il faut avoir des moments où le format peut être plus long, des fois. Et puis, il faut travailler à enfin, moi, je travaille à condenser l'écriture. Et ça change ça parce que ça change beaucoup parce qu'on se dit toujours, ah, si je fais, n'importe quoi, hein, 8 phrases au lieu de 100, on a l'impression qu'on va moins en dire. Alors qu'en fait, on peut, si on joue sur le silence, sur une répétition, sur un double sens, on tire beaucoup en fait plus qu'on ce qu'on l'imagine. Et ça change le rapport à l'écriture parce il peut y avoir un côté en mode j'écris ça pour que ce soit très percutant, un peu de mots, un peu en mode punchline. Et il y a aussi l'aspect de se dire voilà, je veux dire ce que j'avais écrit en 5 minutes, en comment j'arrive à créer ça. Et donc, bah, ça peut changer les élans à des moments ouais,
Mais là,
de ça.
c'est un peu une contrainte de temps que tu te mets alors.
Oui, on se met c'est une contrainte de temps, pas pour l'écrire, mais effectivement dans le rendu final, dans le
Ah
temps dans
oui.
lequel ça dure au final. Et oui, c'est une contrainte de temps. Et des fois, c'est voulu parce que c'est en mode, j'ai envie que ce soit plus court, j'ai pas envie que, voilà. Et des fois, c'est vrai que du coup, je réfléchis, je me dis, bah, je suis aussi influencé par ce que je vois, le fait que sur Instagram, ou même par exemple, même si c'est un autre pan de la culture, effectivement, dans la musique, les chansons se sont raccourcies. Parce que bah, voilà, notre attention, notre capacité à zapper, etc. Et des fois, je me dis, bon, peut-être que je suis aussi influencé par ça. Mais je pense que c'est plus parce que je suis dans un format spécifique avec spectacle où je souhaite absolument varier les formats, quoi. Qui est un truc de 10 minutes, de 2, de 3, pour pas que j'ai que des longs fleuves, des longs textes fleuves, quoi. Donc, il y a ça qui change le rapport à l'écriture.
Bon, je me suis posé la question pendant tout le temps de ta réponse, mais je t'ai écouté, Nadjad, sois-en sûre. Moi, j'ai l'impression que j'ai déjà, si je parle des deux recueils que j'ai sortis, donc Murmuration en 2023 et Recoudre la nuit en 2024, c'est des thèmes qui sont déjà très différents. Et du coup, la restitution par le poème est aussi très différente. Je crois que. Je ne sais pas si je. Parfois, j'ai le sentiment un peu de plafonner, c'est-à-dire de tourner un petit peu en rond avec les mêmes petites sauces. Je ne sais pas si ça te le fait. Une sauce de kebab émerge. C'est une dédicace pour Nadjad. Que les mêmes petites ritournelles trouvent leur place par confort, par habitude. Parce que moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'était nourrir le geste. Et quand je disais que je publiais, même si ce n'était pas super, bah, c'était déjà l'audace. De
De le faire toute
L'audace de
seule.
le faire. Donc, c'était un travail un peu personnel de se dire j'accepte la fragilité de quelque chose qui n'est pas abouti, mais aussi pour m'obliger quasiment quotidiennement à écrire quelque chose. Parce qu'en effet, trouver cet espace dans son quotidien, c'est hyper difficile. Et donc, je m'étais dit, et dès le premier texte que j'avais écrit, si j'arrête maintenant, si je me dis OK, j'ai sorti en 3 minutes, super, si j'arrête là maintenant, je ne réécrirai plus jamais. Donc, je me suis forcée à ça. Et forcée à ça, donc, ça passe par se lâcher la grappe et puis lâcher le poème. Et puis, on verra ce qui me racontera dans 2 semaines quand je le relirai. Et aujourd'hui, je pense que parfois, je me dis que je tourne dans mon écriture un petit peu en rond. Et quand ça m'arrive, alors je relis, je relis, non, je lis. Je passe par des phases de lecture un peu boulimique. J'ai une bibliothèque consacrée à la poésie, qui est mon premier investissement mensuel. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est incroyable le nombre de livres. Je crois que j'en ai 350, quelque chose comme ça. Bon, Malmström a la bonne idée d'éditer des booklegs, un format Nadjad est dans ce format-là, à 3 euros. Donc, c'est merveilleux d'avoir 300 titres accessibles à 3 euros. Ça constitue une bonne part de ma bibliothèque, mais pas que. Et donc, je passe par des phases d'écriture et de personnes que j'admire ou, dont j'ai, ou qui sont à l'opposé de ce que je fais, dans la déconstruction, dans la technicité des jeux de mots. Et puis, je crois que c'est ça aussi, c'est qu'on peut aussi être des éponges à tout ce qui nous, voilà, tout ce qui vient nous chercher. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis 100% à l'origine de ce que je produis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis aussi enrichie de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, et je ne sais plus, quelque part, parfois, faire la part entre d'où ça vient, et c'est pas très grave. Et je suivais un atelier avec Laurence Vielle qui, elle, fait de la maraude poétique. Et ça peut être la poésie infime du quotidien, de la rue, de ce qui se passe. Et pas que, ça peut être un sticker sur un poteau, Niemann is illégal, ce genre de choses qui va devenir une sorte de petite punchline ou de petite signature dans la structure du poème. On ne sait jamais ce qui va être le déclencheur. Donc je reste encore très à l'affût de ça, des petits déclencheurs, et j'essaye, autant que faire se peut, de me dire des fois, là, c'est un peu facile, et quand c'est un peu trop facile, d'essayer de remodeler un petit peu la matière.
Est-ce que justement, vous avez parlé de vos techniques, etc., mais est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Par exemple, quand tu disais, j'écris tous les jours, mais est-ce que c'est tous les jours quand tu te réveilles, ou c'est le soir, ou c'est en fait en fonction de ton emploi du temps ou de tes inspirations?
J'ai une vie qui a changé aussi. J'ai été freelance très longtemps et j'étais à la maison. J'ai deux enfants, donc je voulais avoir cet espace pour voir grandir mes enfants. Et donc... jusqu'à 4 heures, heure de leur retour, j'avais une maison, un espace très calme. Et je sais que j'ai besoin, et c'est un grand, 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 grand luxe, nous qui avons traversé tous, population, le Covid, mais je sais que j'ai besoin de calme pour écrire, mais de calme quasi absolu, le silence, ou de ma musique préférée.
Ah oui, d'accord, t'écris aussi avec de la musique.
Quand j'ai pas le calme, alors c'est ma musique préférée, voilà, que je n'entends plus. Et c'est des boucles. Je peux écouter 600 fois la même chanson.
Et c'est quoi?
Ça dépend.
Ah, d'accord.
Ça dépend. Et c'est pas forcément très... Là, en ce moment, je dirais, c'est... je me mets à réécouter Aurora et c'est Nothing Matters. Et voilà. Elle m'embarque dans son ternaire et je pars avec elle et Pomme aussi.
Est-ce que ça influence ton écriture?
Non. Du tout.
D'accord.
Du tout. C'est juste, je pense que c'est juste pour calmer mon esprit et me dire, voilà. Donc, j'ai ce besoin de, au niveau auditif, d'être dans un endroit safe, en tout cas, de bruit qui pourrait me perturber. Et idéalement, un peu d'horizon. Là, on est devant une grande baie vitrée, tu vois, là, ça pourrait aller. J'ai quand même un peu de ciel et d'horizon. Et du temps, parce que ça peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 2 heures, et je ne sais jamais.
D'accord.
Mais il n'y a pas d'heure de bonheur. Est-ce qu'il y a une bonne heure ou une mauvaise heure? Oui, c'est ça, exactement. plus le matin. Et en fait, mais c'est par le sorte d'habitude d'Instagram, je j'aimais bien poster le matin. Et aujourd'hui, je travaille à 35 km de chez moi. Je prends le train pendant 1h30 et les transports. Donc, je pourrais avoir beaucoup de temps, mais il me manque. J'ai l'horizon qui défile devant moi, mais je n'ai pas le silence. Et donc, je n'arrive pas à écrire. J'ai beaucoup de mal à trouver de l'espace pour écrire correctement, en tout cas comme j'aime le faire. Donc, ça dépend vraiment des conditions.
Toi, Nadjad?
Eh bien, je n'ai pas de rituel d'écriture.
Ah bon?
Surtout, comme je l'ai dit, j'avais ce rythme-là avant 2020, où je m'imposais d'écrire un texte par mois. Mais en fait, je peux ne pas écrire pendant 2 mois comme écrire 4 textes en une semaine.
Oui, c'est ça.
Et j'ai pas de régularité. Et c'est marrant ce que tu avais dit par rapport au silence. Moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Et quand j'avais commencé à écrire en 2017, j'avais un trajet de 45 minutes pour aller au travail et j'écrivais beaucoup dans le métro. Et je peux écrire dans le métro, dans un moment, là où je suis, s'il y a de la musique, je peux écrire. Je peux écrire avec ou sans musique, mais je ne m'impose pas de cadre et ou de moment où écrire. Et des fois, j'ai même l'impression de me dire, ah, depuis que c'est devenu mon métier, j'ai même l'impression qu'il y a des mois où j'écris plus ou pas, ou que j'écris moins. En fait, dans les faits, j'écris plus, mais en proportion par rapport à ma vie et ce que je pensais depuis que je me suis lancé. En fait, pas tant que ça. Donc, les rituels, ils se mettent pas. Et c'est aussi parce qu'on a des rythmes de... Justement, je pense aussi les rituels, c'était plus facile quand on avait une vie professionnelle à côté. Parce que la vie professionnelle cadrait. Alors que maintenant, dans cette vie professionnelle artistique, les semaines sont hyper différentes. Ouais. Je peux avoir une semaine où, dans la même journée, j'ai 4 rendez-vous, une semaine à 50 heures, une semaine à 10 heures, une semaine où je travaille du lundi au dimanche, une semaine où mon week-end va être le mercredi, jeudi. Et je pense que du coup, ça contribue à ne pas réussir à mettre des rituels. Et donc... Et toi, Zéline, est-ce que tu as des rituels pour écrire ou pour écrire et chapeau tes podcasts?
Ouais, j'ai des rituels. C'est pareil, j'aimerais bien être plus disciplinée là-dessus, me dire bon, mais mon organisation, on dit oui, passe 90 minutes tous les matins avant de commencer ton travail sur des projets. Et c'est vrai, en fait, moi, je vois bien le... Mais bon, je ne le fais pas tout le temps. Parce que voilà, mais en fait, quand le matin, je me lève et je fais ça, mon podcast ou écrire et tout ça avant de commencer ma journée, mes idées sont bien plus claires que si je me dis, tiens, ce soir après le travail, Alors, c'est soit le matin ou soit le week-end, en fin de journée, j'aime bien vers 17h, je ne sais pas, je sens que mon cerveau est de nouveau opérationnel, ou le soir. Voilà, au choix. Mais le matin, mais moi, ça a toujours été le matin, j'ai des idées beaucoup plus claires. Après avoir passé une bonne nuit, forcément, faut pas que je me couche trop tard non plus. Voilà. Mais ouais. Donc, j'essaye, mais c'est vrai que le podcast me permet d'écrire aussi, de raconter un peu une histoire dans mes introductions des invités. Mais c'est vrai que le slam en lui-même, soit je m'impose trop une contrainte dans ma tête, je me dis oh, faudrait vraiment que je me pose, etc. Et je le fais moins. Mais voilà.
Est-ce que ça t'arrive d'écrire pendant tes vacances ou des moments qui, en théorie, ne s'y prêtent pas?
Pendant mes vacances, si. Mais je mène toujours un carnet avec moi. Toujours. Et j'écris alors soit ce que j'ai fait dans la journée ou ce que j'ai ressenti pendant la journée. Ou si j'ai fait une rencontre, tiens, j'ai rencontré une personne qui m'a inspiré ça ou j'ai vu, des fois je suis un peu fleur bleue, mais si j'ai vu un superbe coucher de soleil. Je sais pas moi, au bord de la mer, où je sens le sel sur ma peau, voilà. Non, mais enfin, c'est des choses qui me... Je suis assez, ce que tu disais, je crois aussi tout à l'heure, je suis assez visuelle et moi, j'ai besoin de ressentir les choses et de les voir et voilà. Donc oui, ou quand j'écris bien aussi, c'est quand je rentre là où j'ai grandi. C'est marrant, hein, mais soit parce que je sais que j'ai peut-être moins de choses à penser parce que je suis chez mes parents, etc. Quoique, voilà, mais j'écris bien aussi là-bas. Plus que... Alors, ici, j'écris bien aussi, mais comme toi, j'ai besoin de calme. Je me suis acheté un casque anti-bruit parce qu'ici, il y a quand même des petits bruits, mais il y a quand même du bruit. Mais j'aime bien être au calme. Et pas être trop sollicité par le bruit ou par toute notre vie autour, quoi. Voilà.
C'est marrant.
Ah si, là où j'écris bien aussi, c'est dans les... c'est par exemple, moi j'aime bien aller de temps en temps, je vais prendre un café toute seule dans un café. Et ça, j'écris aussi pas mal. Enfin, pas mal, j'écris. parce qu'en fait, j'adore c'est vrai ce que je vais dire. Non, mais j'aime bien, c'est pas que j'aime bien observer les gens, c'est que des fois, il y a des scènes de vie, que ce soit même dans la rue, quand tu sors de chez toi, tu croises un gars qui est, qui est habillé de toutes les couleurs, où tu te dis, ah, mais c'est bien, il met du... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose où tu vas dans le bus, tu croises des... tout type de gens que si tu étais seul dans ta voiture ou quoi, ben tu verrais pas tout ça. Donc ça, j'aime bien prendre les pour ça, prendre les transports ou quand tu prends le train ou je sais pas. Voilà. C'est peut-être un peu bizarre, mais je pense pas.
Ouais.
Ouais, voilà. Alors, on arrive un peu à la fin de notre conversation. Ah si, j'avais une dernière question. Comment vous savez que votre texte, il est terminé ? Terminé, bonsoir. Ça, c'est fini, on n'y touche plus et il est prêt pour le... pour qu'il soit déclamé.
Ce qui faisait partie de, effectivement, du processus d'écriture, ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est le partage sur scène. Je sais que c'est fini quand je ressens après... un partage du texte ou plusieurs, que la manière dont j'amène le sujet, l'angle, est bien compris, que là où j'attends qu'il y ait potentiellement un effet par rapport à telle ou telle phrase se matérialise et réalisé, et qu'il y a un vrai alignement entre ce que j'ai dit et la manière dont c'est ressenti, je sens qu'à ce moment-là, que c'est fini, mais c'est effectivement du coup... toujours ce suspense de il n'est jamais fini quand il est fini d'écrire, mais il est toujours fini, en tout cas chez moi, quand je l'ai partagé une ou plusieurs fois et que je sais que je suis aligné entre ce que je voulais dire et ce qui a été dit et la manière dont ça a été reçu.
D'accord.
Donc il faut la validation de la scène. Et maintenant, j'ai une double validation, voilà, surtout par rapport au spectacle, de la metteuse en scène avec laquelle je travaille. Et là, effectivement, vu les arches narratives, il faut que le fil rouge se tienne. Et du coup, forcément, là, il y a aussi cette validation-là qui peut entrer en compte dans ce cadre-là.
D'accord.
Donc, dans un cas, c'est toujours, en tout cas, en le partageant, voilà, avec une professionnelle et ou sur scène pour que je sais que là, on a le point final.
D'accord. OK.
Bon, je ne travaille pas avec une metteuse en scène, donc ça, c'est pas ça. Mais bah ouais, non, je retiens, tu n'en dis que du bien. Moi, il y a une volonté toujours un peu d'épure, et donc c'est quand je ne peux plus enlever aucun mot, et que
D'accord.
tout sonne juste quand je me le murmure à moi, ou que je le dis à grande voix dans la rue. enfin, que je me le déclame à moi-même. Déjà, ça, c'est le premier filtre, l'oreille. Et puis après, en effet, oui, sur scène. Pour voir si ça vibre aux bons endroits, si l'intention est juste. Je crois que ça reste le meilleur examen pour savoir s'il aura son bac, quoi. S'il aura son diplôme pour faire un bout de chemin.
OK. Alors, pour terminer, j'ai quelques questions. Où je vous demanderai de répondre vraiment très, très vite. Très rapidement.
On a été un peu long.
Non, très rapidement, dans le sens où c'est du tac au tac. Non, mais ça va. Alors, donc chacun à votre tour. Votre mot préféré ?
Ça va.
Murmuration.
Le mot que vous rêveriez d'avoir inventé ?
Amour.
Oh, quel romantique.
Humanité.
Si vos mots étaient une matière, laquelle serait-il ?
Une éponge.
Mmh. C'est bien.
Je reconnais Nadjad, là, je le reconnais.
Super inspiré.
Ouais.
Moi, je crois que j'ai envie que ça tienne un peu chaud. Donc, ça serait une laine douce et qui picote pas.
Le texte dont vous êtes le plus fier,
c'est celui de... J'aurais pu... C'est le prochain. Le texte dont je suis le plus fier, c'est Kebabologue, Voilà, c'est un texte où, parce que j'ai mis du temps à l'écrire, parce que j'avais écrit des textes par rapport au racisme pendant 2-3 ans et ça m'avait rarement plu. Et en fait, un jour, j'ai réussi à trouver un angle par rapport à un maire qui s'appelle Robert Ménard et qui a dit des bêtises, on va dire, autour du kebab et les gens qui les tiennent. Et je trouvais que c'était un angle hyper intéressant via que même dans la cuisine, le racisme se propage, en fait. Et donc, ouais, j'écris une sorte de réponse avec beaucoup d'absurdie là-dessus. Et c'est le texte que j'ai le plus réécrit aussi. Donc, c'est un thème sur lequel je voulais écrire depuis longtemps, sur lequel j'écrivais, j'étais peu content. Et oui, c'est un texte dont je suis très fier.
D'accord.
Moi, je dirais que c'est un texte d'En recoudre la nuit qui est un recueil sur la perte, le vide et le deuil. Et ça tient à une métaphore, en fait, qui était vraiment salvatrice pour moi, celle de l'aiguille, recoudre la nuit. Hein. Mais l'aiguille qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, et qui, à chaque fois, répare un tout petit peu de façon infime, mais dans un mouvement qui n'est pas vain, ça monte, en effet, et puis ça peut redescendre. Mais c'est, je veux dire, cette phrase, hein, c'est pas, mais c'est OK. C'est, voilà.
Un lieu qui vous inspire, où vous sentez bien, en fait, pour écrire.
Bruxelles.
Silence, horizon, étang.
La thématique qui vous tient à cœur.
Sentiment de perte.
Le vivant.
Vous êtes plutôt plume, crayon, stylo ou ordinateur pour écrire?
Plutôt GSM.
Oh là là, je l'ai oublié celui-là. GSM.
Ben, team smartphone aussi.
D'ailleurs, est-ce que vous avez un slam ou un poème que vous auriez aimé écrire? Ou une chanson pour toi, Nadja?
Une
Une chanson
chanson.
d'amour.
Les chansons que j'aurais aimé écrire, oh, il y en a beaucoup, beaucoup trop, en fait, que j'aurais aimé écrire. Demain, c'est loin de IAM.
Ah oui.
Demain, c'est loin d'IAM.
Yam, ouais, ils sont très très bons aussi.
C'est un 9
Ok.
minutes incroyable, la manière dont ça se répond, le flow. Et les paroles n'ont pas vieilli 28 ans après. Demain, c'est loin d'IAM, ouais.
Je dirais les autres de d'Abdelmalik.
D'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là. C'était terminé.
C'est pas
Fini.
possible.
C'est pas possible.
Mais est-ce une fin, une fausse fin? Parce que...
Comme dans les films de Noël.
En fait, il revient.
Il revient. Il vient s'installer dans le village.
Est-ce que vous avez envie de dire un texte?
Avec grand plaisir. Hein.
Donc, je sais pas, est-ce qu'on fait honneur à Laura pour commencer?
Comme ça, je relis mon
Ah oui.
écriture.
Et ensuite, on passera à
À la
Jade.
surprise. Eh bien, c'est parti alors. Prends ta place. Dans le bus, dans la ville, dans la vie, prends ta place. Dans ton genre, fluide ou pas, dans les arts, dans l'histoire, prends ta place. À l'école, dans la cour, dans le coin, dans le clan, jusqu'aux angles timides, aux cartables trop lourds, prends ta place. Dans l'amphi, dans la fête, dans la foule, ou juste par terre, parce que t'es mieux assise. Prends ta place dans ton domaine, sur ton territoire, là où tu te sens juste. Là où tu te sens toi. C'est en haut, c'est en bas, tu peux en vivre ou pas. Tu sais pas la décrire ta place, mais tu la sens danser. Tu sais ta place. De là où l'on te pousse dur pour ne pas convenir, on cherche à te chasser du coude, du pied, du ventre, de la bouche ou du sexe. Ta place, marque-la, marquette-la, signe-la, saigne-la, soigne-la. Pave, la lave, la bave, la brave, la mais ne la livre pas ni d'un pouce ni d'un pas. Cette place est pile à ta taille, pile et face pour toi. Alors pas de hasard, hein, pas de gomme. Personne, crois-moi, ne pourra t'effacer. Tu n'es pas une ligne en graphite écrasée. Tu es tout un quartier. Tu es le vent d'ici et la terre sacrée. Prends ta place en coupe-coupe défricheur ou en voiture balai. prends ta place au milieu de 1000 sœurs ou comme petit dernier. Prends ta place et tente de ne pas la voler à qui d'autre la mérite. Fais grandir l'espace pour tenir en équipe. Tu es seule. Tu es foule. Car tout au fond de toi, dans les ravines rhizomes du ventre origine, reconnecte-toi aux places Sainta, cette matière nourricière qu'a grandi avec toi. Ta place, questionne-la toujours un peu, beaucoup. Ta place, adapte-la, ne la laisse pas figer dans une même position. Ta place, adopte-la, car on ne n'est pas place. D'abord la fontaine, puis les arbres tout autour, des oiseaux sur les branches et des vers pour manger. Ta place est tellement plus que celle que tu sais prendre au sol. C'est un jardin secret où seul toi décideras de faire pousser de l'ombre, des racines ou des lois. Ta place, c'est d'être vivante au milieu du vivant, dans une galaxie qui elle-même est poussière à côté de l'univers, alors ta place. Ta place est égale au carré de l'hypoténuse du temps. Oui, hypoténuse du temps qu'il te faudra pour aimer tes contours et ce qu'il y a dedans, pour aimer tes contours et ce qu'il y a autour. Prends ta place.
Bravo! Bravo! Très très beau texte. J'avais déjà entendu, mais vraiment très beau texte. Et oui, il faut prendre sa place dans la vie. Alors Nadjad, faut savoir qu'avec Nadjad, on avait fait une battle de compliments pendant le stage, et j'étais tombée avec Nadjad. Donc, on va la refaire. Comment veux-tu la faire ? Tu commences ou...
Je préfère que tu commences, je ne vais pas faire de l'ombre au soleil.
Allez, comment terminer une journée ? Bon, voilà. Moi, je ne suis pas slameuse depuis... Je suis slameuse en herbe, donc voilà. Pas trop de critiques. Alors, battle de compliments. Nadjad, jamais dans le bad, parfois mélancolique mais souvent magique. Tes mots tombent toujours à pic. Nadjad, de ton cœur tendre, tu nous balades. Moroni, Paris, Bruxelles, c'est ton essence. Du sang des Comores à épénée sur Seine, à ta naissance à la Seine. Doux comme un chat, ton sourire vaut de l'or. Des fins des années 80, tu t'imagines swinger des 60s, lunettes sur le nez, micro à la main et dans ta poche une boîte de Smarties. Étudiant chez les Normands, tu foules les planches de Deauville. Toi aussi un jour, ton nom sera écrit en grand, tel un poète connu qui brille à l'allure tranquille. L'amour te fait venir à Bruxelles, mais c'est du slam dont tu tombes amoureux. En toi jaillit une étincelle, tu as toujours plusieurs textes sur le feu. Recueil, recette, c'est ton terrain de jeu. Tu cuisines les mots et bats la mesure comme personne. Tu as toujours une pépite sur le feu. En moi, en nous, tes rimes résonnent. Adidas aux pieds, t-shirt Ikea ou arc-en-ciel coloré, Nadjad toujours stylé, le mannequin des mots enchantés. À la Joséphine Ange Gardien, tu nous transportes l'air de rien dans tes slams de badass. Les mots, c'est le cuivre de ta cuirasse. Arrête-moi si tu peux, je voudrais pas faire des envieux, mais tu es le premier slameur que j'ai rencontré, le zizou du verre qui tape dans nos têtes givrées. Coup de foudre pour les slameurs, quatrain, punchline ou sniper, sur scène ou dans la rue, Nadjad élu meilleur des clameurs. Et fédérateur au grand cœur des petits nouveaux slameurs. Nadjad, avec toi, on va plus loin, même si parfois tu préfères le soleil. Même si parfois tu préfères la soledad. Après tout ça, on a la vie devant soi, et c'est toujours mieux avec toi. Bon, il y a eu des petits doublés, mais non.
Ah non, mais il y a eu des rêves, dans les rêves, incroyable. Ah, j'adore. Non, je le redis, mais voilà, pas que pour un spectacle, mais si besoin d'une attachée de presse, voilà, j'enverrai ça, ah, effectivement, voilà, pour me rendre... Ah, oh, incroyable. Oh là là.
Tu t'habilleras en jaune et bleu.
Oui, pour rendre hommage à Ikea et au jour de notre rencontre. Effectivement. Mais depuis,
Ikea,
quand je mets.
Depuis, hein.
Quand je mets ou ce t-shirt ou ce pantalon, voilà, qui formait effectivement les couleurs,
ouais, voilà.
Les couleurs de d'IKEA, je pense à toi et je me dis attention, attention aux associations, tu vois. J'ai la voix de Christina Cordula qui arrive et la tienne qui arrive en même temps et je suis en mode ah, fais gaffe, déjà, fais gaffe. Ah ouais, fais gaffe. Waouh, Isaline. Oh my god. Oh mon dieu. Par où commencer? Comment décrire en 3 minutes chrono quelqu'un avec autant de qualités? Depuis le jour où je t'ai rencontré, chaque jour est un jour férié. Parce que ma tête est à la fête sans discontinuer. Allez, rentrons dans le vif du sujet sans état d'âme. Poésie, théâtre, podcast. Dis-moi au final. Pourquoi tu te fais chier à faire du slam alors que tu pourrais ouvrir ta propre multinationale? Isaline Corp, parce que tes mots, c'est la meilleure cam. En entendant tes poèmes, grand corps malade a pensé à prendre sa retraite. 7 sur 7, tu deals avec les figures de style, litote et l'hippogramme. Quand j'entends ta prosodie, mon cœur est aussi à la fête. D'ailleurs, à ce qui paraît, l'été, tu prends pas de pause culturelle avec tes poteaux. Direction Arles et le Festival international de la photo. De ces artistes de l'image qui aiment capter des instantos, des instantards, il t'arrive pas à ta cheville. Toi, t'es une magicienne de Serpentard. Dédoublement de personnalité à tous les niveaux. Pas étonnant que ton nom de famille soit aussi un prénom. Dédoublement de personnalité à tous les niveaux. Tu seras la prochaine Christina Cordula à la télévision. Oui, Isaline Christina Cordula. T'es de la trempe de celles qui soulignent les fashion faux pas. Un jour, je suis venue habillée jaune soleil et bleu turquoise et tu m'as taxé de faire du placement de produits pour Ikea. D'ailleurs, ça ferait du bien pour arrondir les fins de mois des artistes, les placements de produits. Plus que 928 vues. Quand j'ai entendu ça, j'étais colère, espèce d'Anna Wintour. Parce que j'aurais aimé trouver cette vanne avant toi. L'humour recouvre ta joie, c'est ton cheval de Troie. Se donner le droit de sourire. Quel beau cadeau que tu t'octroies. Tellement que t'en as fait le titre de ton podcast. J'aime quand vous souriez. Dans lequel tu vas à la rencontre d'artistes, d'artisans pour les questionner. Tellement généreuse, tellement pas fainéante, que pour les interroger, tu te déplaces même jusqu'au sud de Nantes. Isaline Christina Cordula Anna Wintour. Avant que nos chemins se séparent et prennent de nouveaux détours, je voulais t'offrir un cadeau au nom de la salle entière. C'est offrir ton propre dictionnaire. Mais il y a un grand problème avec ce dictionnaire. Bah ouais, t'as trop de qualité. Du coup, pour pouvoir l'imprimer, on a dû raser toutes les forêts de l'Amazonie. Toutes les forêts du Canada et des États-Unis, mais promis, on ne touchera pas aux forêts de Mongolie. Bref, à côté de toi, on pèse pas lourd. T'excelles partout. En bonne bretonne, t'excelles même dans le ramassage de palourdes. T'excelles excellemment en Excel, petite pro de l'orga. Isaline, je t'en supplie. Je t'en supplie déjà. Je t'en conjure. De grâce, je t'en prie. S'il te plaît. Donne-moi ne serait-ce qu'un millième de tes qualités, que je puisse aussi intégrer le patrimoine immatériel de l'humanité. Au rang des grandes, au rang des légendes, même quand l'espoir s'estompe, mais il peut toujours se régénérer. Après la pluie, vient le beau temps.
Bravo! Merci, Nadjad! Après la pluie, vient le beau temps, j'adore cette expression en plus. Merci à vous deux.
Merci
à toi, beaucoup.
Merci pour l'accueil.
Et à très bientôt pour des textes. J'espère plus de scènes ouvertes l'année prochaine avec vous.
Bien.
Voilà.
C'est un engagement.
J'espère que cet épisode vous a plu qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré et donné envie de pousser la porte de ses ateliers et ses slams. Si vous aimez jouer avec les mots, le slam est fait pour vous, frisson garanti. Je vous invite à retrouver toute l'actualité du collectif Slameke sur leur site slameke.be ou sur leur compte Instagram slameke. Et pour plonger dans l'univers de mes deux invités, je vous donne également rendez-vous sur leur compte najat.slam ou laura-dans-l'air. Leurs recueils sont également disponibles et publiés grâce aux éditions Maelstrom. Merci à Laura et Najat pour leur confiance. Ce sont deux personnes bienveillantes où, quand je discute avec eux, tout est fluide et ça fait du bien. Pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.